Joséphine et Bonaparte par Paul Deschanel. Chapitre 1er. On a beaucoup discuté la question de savoir si Napoléon avait du cœur, et jusqu'à quel point il était ou avait pu être sensible. Vous vous rappelez les vers de Lamartine ? Rien d'humain ne battait sous ton épaisse armure. Sans haine et sans amour, tu vivais pour penser. Comme un aigle régnant dans un ciel solitaire, tu n'avais qu'un regard pour mesurer la terre et des serres pour l'embrasser. Madame de Rémusat, dans ses mémoires, a exprimé la même pensée. Je devrais parler du cœur de Bonaparte, mais s'il était possible de croire qu'un être, sur tout autre point semblable à nous, fût cependant privé de cette partie de notre organisation qui nous donne le besoin d'aimer et d'être aimé, je dirais qu'à l'instant de sa création, son cœur pourrait fort bien avoir été oublié. Ou bien, peut-être, est-il parvenu à le comprimer complètement. Il s'est toujours fait trop de bruit à lui-même pour être arrêté par un sentiment affectueux, quel qu'il fût. Il ignore à peu près les liens du sang, les droits de la nature. Un diplomate, qui écrit plusieurs livres agréables sur les femmes de Versailles et les femmes des Tuileries, proteste contre ces jugements, qu'il trouve exagérés, et y répond par les lettres enflammées de Bonaparte à Joséphine. Il va jusqu'à accepter cette opinion du duc de Raguse. La nature lui avait donné un cœur reconnaissant et bienveillant. Je pourrais même dire sensible. Il s'agit de s'entendre. Que Bonaparte ait d'abord été épris de sa femme, et jaloux parfois jusqu'à la fureur, cela est indéniable. Mais cet amour venait-il du cœur ou de la tête? Les mots tendres et sentimentaux sont-ils bien faits pour rendre ses transports et ses rages? N'était-ce pas plutôt l'imagination qui était prise? Et n'en est-il pas ainsi chez presque tous les hommes, dont le cerveau domine et tire à lui toute la sève de vie, poète, artiste, philosophe ou mathématicien? Par là, les amours d'un Spinoza, d'un Goethe et d'un Bonaparte se ressemblent, et le moraliste se plaît à relire en même temps l'admirable théorie de la jalousie au troisième livre de l'éthique, certains entretiens avec Eckermann et les lettres datées de Thornton et de Marmirolo. Le jeune ambitieux sans scrupules, qui a épousé la maîtresse de Barras, plus âgé que lui de 7 ans, et qui lui doit son avancement rapide et sa situation éclatante, n'a qu'un seul moyen de voiler cela, de se relever devant elle, et peut-être à ses propres yeux, c'est de paraître n'avoir cédé qu'à une passion irrésistible, à un attrait vainqueur, à la magie de cette créole charmeresse. Alors, il essaye de s'échauffer dans son rôle, et presque de se faire accroire à lui-même, comme aux autres, qu'il est le saint preux de cette nouvelle Héloïse. Et il va, ramassant dans sa mémoire les phrases les plus hyperboliques et les plus frelatées, les métaphores à la Rénal. Il essaye de faire du Rousseau, il fait du Rétif. Elle, qui n'est pas forte en littérature, prendra tout cela pour flamme véritable, et lui-même à la fin aussi, peut-être. Ce qui est vrai, c'est que, inquiet, il craint que, par ses légèretés, elle ne lui fasse, en son absence, une situation ridicule. C'est pour cela qu'il la rappelle. Et puis enfin, une certaine jalousie physique, à l'orientale. Et tout au fond, cette inexplicable angoisse qui nous saisit quand la femme que nous possédons, même sans l'aimer, et dont nous nous croyons maître, paraît se plaire au désir d'un autre. Il épouse Joséphine le 9 mars 1796, il a 26 ans et elle 33. 48 heures après, il part pour l'armée d'Italie. Chaque étape, chaque relais est marqué par une lettre. De chanceux, le 14. Chaque instant m'éloigne de toi, adorable ami, et à chaque instant je trouve moins de force pour supporter d'être éloigné de toi. Tu es l'objet perpétuel de ma pensée. Mon imagination s'épuise à chercher ce que tu fais. Si je te vois triste, mon cœur se déchire, et ma douleur s'accroît. Si tu es gai, folâtre avec tes amis, je te reproche d'avoir bientôt oublié la douloureuse séparation de 3 jours. Comme tu vois, je ne suis pas facile à contenter. Que mon génie, qui m'a toujours garanti au milieu des plus grands dangers, t'environne, te couvre, et je me livre à découvert. À la veille du premier combat, il écrit de Port-Maurice, le 3 avril. Mon unique Joséphine, loin de toi, le monde est un désert où je reste isolé. Tu m'as ôté plus que mon âme. Tu es l'unique pensée de ma vie. Si je suis ennuyé du tracas des affaires, si les hommes me dégoûtent, si je suis prêt à maudire la vie, je mets la main sur mon cœur. Ton portrait y bat, je le regarde, et l'amour est pour moi le bonheur absolu. Par quel art as-tu su captiver toutes mes facultés, concentrer en toi mon existence morale, vivre pour Joséphine, voilà l'histoire de ma vie. » Bientôt la mélancolie succède à l'enthousiasme. « Ah, mon adorable femme, je ne sais quel sort m'attend. Mais s'il m'éloigne plus longtemps de toi, il me sera insupportable. Mon courage ne va pas jusque-là. L'idée que ma Joséphine peut être mal, et surtout la cruelle, la funeste pensée qu'elle pourrait m'aimer moins, flétrit mon âme, arrête mon sang, me rend triste, abattu, ne me laisse pas même le courage de la fureur et du désespoir. Mourir sans être aimé de toi, c'est le tourment de l'enfer, c'est l'image vive et frappante de l'anéantissement absolu. Il me semble que je me sens étouffé. Mon unique compagne, toi que le sort a destiné pour faire avec moi le voyage pénible de la vie, le jour où je n'aurai plus ton cœur, sera celui où la nature sera pour moi sans chaleur et sans végétation. » Bonaparte est vainqueur, le 12 à Montenotte, le 14 à Millésimo, le 22 à Mondovi. Le 26, il supplie sa femme de venir le rejoindre. « Tu as été bien des jours sans m'écrire, que fais-tu donc? Tu vas venir, n'est-ce pas? Tu vas être ici, à côté de moi, sur mon cœur, dans mes bras. Prends des ailes, viens, viens !» Mais la coquette se trouve bien à Paris. Elle se soucie peu de quitter ce monde où elle brille, ses plaisirs renaissants, et d'affronter les fatigues d'un long voyage. Bonaparte est entré à Milan en triomphateur. La ville est en fête. Joséphine ne vient pas, ne répond pas. Que fait-elle? Peut-être en aime-t-elle un autre? Il en parle souvent à ses compagnons d'armes, avec l'épanchement, la fougue et l'illusion d'un très jeune homme. Il se laisse aller en leur présence à des mouvements de jalousie, à des accès de colère, et aussi à des craintes superstitieuses qu'expliquent son origine corse. Marmont raconte qu'un jour la glace du portrait de Joséphine se brisa dans les mains du général. Il pâlit. « Marmont, dit-il, ma femme est malade, ou infidèle. » Chapitre deuxième. La vérité est que l'indolente créole ne comprenait rien à cette nature impétueuse. Elle était plus étonnée que charmée de ses emportements. Fascinée, troublée, mais non pas aimante, elle trouvait plus agréable de jouir tranquillement à Paris de sa fortune nouvelle que d'aller la conquérir avec lui. « Je l'entends encore, » dit le poète Arnaud, lisant un passage dans lequel son mari lui disait « S'il était vrai, pourtant, crains le poignard d'Othello. » Je l'entends dire avec son accent créole en souriant « Il est drôle, Bonaparte. » Rarement c'est à une femme supérieure que s'attache un homme de génie. Talleyrand, à la même époque, nous offre un exemple pareil. La nonchalance créole ou indienne reposait ses intelligences toujours en travail. S'il est vrai que l'analogie des goûts soit une condition de la durée de l'amour, il semble que l'inégalité des esprits et la différence des caractères aident à le faire naître. On s'attire et on s'aime par ses contrastes plus que par ses ressemblances. Mais la disproportion qui a fait naître l'amour est aussi ce qui le tue. Napoléon se rappellera plus tard les orages de sa jeunesse, et peut-être ses souvenirs fourniront-ils des arguments à son ambition lorsqu'il lui faudra répudier la seule femme qu'il ait cru aimer. Qu'on se figure le Napoléon de 1809 relisant cette lettre du 15 juin 1796. « Ma vie est un cauchemar perpétuel. Un pressentiment funeste m'empêche de respirer. Je ne vis plus. J'ai perdu plus que la vie, plus que le bonheur, plus que le repos. Je t'expédie un courrier. Il ne restera que 4 heures à Paris, et puis il m'apportera ta réponse. Écris-moi 10 pages. Cela seul peut me consoler un peu. L'amour que tu m'inspirais m'a ôté la raison. Je ne la retrouverai jamais. L'on ne guérit pas de ce mal-là. Je me bornerai à te voir, à te presser 2 heures sur mon cœur et mourir ensemble. Sans appétit, sans sommeil, sans intérêt pour l'amitié, pour la gloire, pour la patrie, toi, toi et le reste du monde n'existent pas plus pour moi que s'il était anéanti. Je tiens à l'honneur puisque tu y tiens, à la victoire puisque cela te fait plaisir, sans quoi j'aurais tout quitté pour me rendre à tes pieds. Aie soin de me dire que tu es convaincu que je t'aime au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer, que tu es persuadé que tous mes instants te sont consacrés, que jamais il ne m'est venu dans l'idée de penser à une autre femme, qu'elles sont toutes à mes yeux sans grâce, sans beauté, sans esprit, que toi, toi tout entière, telle que je te vois, que tu es, pouvait me plaire et absorber toutes les facultés de mon âme, que tu en as touché toute l'étendue, que mon cœur n'a point de repli que tu ne vois, point de pensée qui ne te soit subordonnée, que mes forces, mes bras, mon esprit sont toutes à toi, que mon âme est dans ton corps, et que le jour où tu aurais changé, ou le jour où tu cesserais de vivre, sera celui de ma mort, que la nature, la terre n'est belle à mes yeux que parce que tu l'habites. Si tu ne crois pas tout cela, tu m'affliges, tu ne m'aimes pas. Tu sais que jamais je ne pourrai te voir un amant, encore moins t'en souffrir un. Lui déchirer le cœur et le voir serait pour moi la même chose. Et puis si je pouvais parler la main sur ta personne sacrée, non, je ne l'oserais jamais, mais je sortirais d'une vie où tout ce qui existe de plus vertueux m'aurait trompé. Joséphine finit par se décider, bien à regret et en pleurant, à quitter Paris et à rejoindre son époux. L'amant donne rendez-vous à sa maîtresse entre deux batailles et les déclarations passionnées se mêlent au bulletin de victoire. Nous avons attaqué hier Mantoue. Toute la nuit, cette misérable ville a brûlé. Nous ouvrons la tranchée cette nuit. Je vais partir pour Castiglione demain. J'ai reçu un courrier de Paris. Il y avait deux lettres pour toi. Je les ai lues. Cependant, bien que cette action me paraisse toute simple et que tu m'en aies donné la permission l'autre jour, je crains que cela ne te fâche et cela m'afflige bien. J'aurais voulu les recacheter. Fille, ce serait une horreur. Je te jure que ce n'est pas par jalousie. Je voudrais que tu me donnasses permission entière de lire tes lettres. Avec cela, il n'y aurait plus de remords ni de crainte. Mille baisers aussi brûlants que mon cœur, aussi purs que toi. Je fais appeler le courrier, il me dit qu'il est passé chez toi, et que tu lui as dit que tu n'avais rien à lui ordonner. Fille, méchante, laide, cruelle, tyranne, joli petit monstre. Tu te ris de mes menaces, de mes sottises. Ah, si je pouvais, tu sais bien, t'enfermer dans mon cœur, je t'y mettrais en prison. 19 juillet. Ce dernier trait en rappelle quelques-uns des sonnets de jeunesse de Shakespeare. Dans cet amoureux, qui reconnaîtrait le dominateur terrible dont les colères vont faire trembler le monde? On le voit éclater à travers l'amour même lorsque Joséphine, arrêtée par une troupe ennemie, prend peur et se met à fondre en larmes. « Wurmser, s'écrie Bonaparte, me paie à cher les pleurs qu'il te cause. » Pendant qu'il est victorieux à Roberto, qu'il poursuit Wurmser dans les gorges de la Brenta, enlève le défilé de Primolano et gagne la bataille de Bassano, sait-on quelle est la disposition d'esprit de Joséphine entrée en souveraine à Milan? « Monsieur Cerbelloni vous frappa, écrit-elle à sa tante, Madame de Renaudin, qui venait d'épouser le marquis de Beauharnais, de la manière dont j'étais reçue en Italie, fêtée partout où j'ai passé. Tous les princes d'Italie me donnent des fêtes, même le grand-duc de Toscane, frère de l'empereur. Eh bien, je préfère être au simple particulière en France. Je m'ennuie beaucoup. » On voit que la femme de César n'avait rien de César. Ses lettres à Bonaparte se ressentent de cet ennui. « Tes lettres, lui dit-il, sont froides comme 50 ans. Elles ressemblent à 15 ans de mariage. On y voit l'amitié et les sentiments de cet hiver de la vie. C'est bien méchant, bien mauvais, bien traître à vous. Que vous reste-t-il pour me rendre bien à plaindre? Ne plus m'aimer? Eh, c'est déjà fait. Me haïr? Eh bien, je le souhaite. Tout avili, hors la haine. Mais l'indifférence, au pouls de marbre, à l'œil fixe, à la démarche monotone. » C'en est assez pour faire comprendre qu'après une pareille expérience, il se soit gardé de l'amour et dérobé obstinément à l'influence des femmes. Les femmes reprochent souvent aux hommes leur dureté, et souvent ce sont elles qui les ont endurcies. Chapitre 3e. Madame de Rémusat avait eu en main ses lettres de la première campagne d'Italie. Voici comment elle en parle dans ses mémoires. Ces lettres sont très singulières. Une écriture presque indéchiffrable, une orthographe fautive, un style bizarre et confus, mais il y règne un ton si passionné, on y trouve des sentiments si forts, des expressions si animées et en même temps si poétiques, un amour si à part de tous les amours, qu'il n'y a pas de femme qui n'eût mis du prix à y avoir reçu de pareilles lettres. Elles forment un contraste piquant avec la bonne grâce élégante et mesurée de celle de M. de Beauharnais. D'ailleurs, quelle circonstance pour une femme de se trouver, dans un temps où la politique décidait des actions des hommes, comme un des mobiles de la marche triomphante de toute une armée. À la veille d'une de ses plus grandes batailles, Bonaparte écrivait « Me voici loin de toi. Il semble que je sois tombé dans les plus épaisses ténèbres. J'ai besoin des funestes clartés de ces foudres que nous allons lancer sur nos ennemis pour sortir de l'obscurité où m'a jeté ton absence. » Il y avait en Napoléon un poète, et l'on pourrait expliquer tous ses actes par cette complexion unique, par ce mélange d'imagination, de passion et de calcul. Les rêves d'Ossian avec l'esprit positif du mathématicien et les emportements du Corse, tels étaient les éléments hétérogènes qui se heurtaient dans cette organisation puissante. Malgré la froideur de Joséphine, cet amour fut assez long à s'éteindre. 2 ans après, pendant la campagne d'Égypte, nous retrouvons Bonaparte toujours enflammé de jalousie. Il pense à Joséphine, il la voit au Luxembourg, dans les fêtes de Barras, entourée d'hommages. Un jour, près des fontaines de Messoudia, devant El Arish, il se promène seul avec Junot. Sa figure, ordinairement très pâle, devient verte. Ses yeux sont égarés. Après un quart d'heure de conversation avec Junot, il le quitte et va rejoindre Bourrienne. « Vous ne m'êtes point attaché, » lui dit-il brusquement. « Ah, les femmes, Joséphine, si vous m'étiez attaché, vous m'auriez informé de tout ce que je viens d'apprendre par Junot. Voilà un véritable ami, Joséphine. Et je suis à 600 lieues. Vous devriez me le dire, Joséphine, m'avoir ainsi trompé. Malheur à eux, j'exterminerai cette race de freluquets et de blondins. Quant à elle, le divorce. Oui, le divorce. Un divorce public éclatant. Il faut que j'écrive. Je sais tout. C'est votre faute. Vous deviez me le dire. » Cette scène ne fait-elle pas songer à Othello ? Regarde, Iago, je livre au vent mon fol amour. Il n'est plus. Debout, notre vengeance, quitte ta sombre demeure. Amour, abandonne à la haine tyrannique la couronne et le trône de mon cœur. Gonfle-toi, mon sein, sous le poids qui t'oppresse, sous la morsure empoisonnée des vipères. La figure de Bonaparte se décompose, sa voix s'altère. Oh, gardez-vous de la jalousie. C'est le dragon aux yeux verts qui a horreur des aliments dont il se nourrit. Ce mari trompé vit protégé du ciel qui, sûr de son sort, n'aime pas son épouse par jure. Mais quel moment ne passe-t-il point, celui qui aime ardemment et doute, celui qui soupçonne tout en adorant? Sa jalousie à cette époque était encore si vive qu'il en entretenait même son beau-fils, le propre enfant de Joséphine, Eugène de Beauharnais, qui n'avait que 17 ans. C'était ordinairement le soir, a dit celui-ci, qu'il me faisait ses plaintes et ses confidences en se promenant à grands pas dans sa tente. J'étais le seul avec lequel il put librement s'épancher. Je cherchais à adoucir ses ressentiments. Je le consolais de mon mieux, et autant que pouvait me permettre mon âge et le respect qu'il m'inspirait. L'auteur nous conduit ainsi jusqu'au 18 Brumaire. Il rappelle le rôle joué par Joséphine dans le coup d'État, la lettre écrite au directeur Goyer, etc. Je ne sais s'il n'a pas exagéré la portée de ce rôle en disant « Sans Joséphine, il est probable que Napoléon ne serait jamais devenu empereur. » C'est là un de ces mots où se trahit la sympathie un peu excessive de l'historien pour son héroïne. Mais ne pardonnons-nous pas à l'aimable écrivain d'avoir ressenti lui aussi l'influence de cette grâce créole qui subjuguait Bonaparte? Pour nous, nous serions plutôt tentés de dire, après avoir relu ce roman d'aventure, que Joséphine était peu digne d'un héros et d'un trône. Aussi serons-nous peut-être moins disposés que son historien à la plaindre lorsqu'il nous retracera la crise du divorce. Il ne faut pas que l'intérêt et l'agrément semés dans son récit par le sympathique écrivain, ni que les torrents de lave et de passion à la Jean-Jacques du jeune héros d'Italie nous fassent illusion sur la légèreté et le vide de cette âme. Une autre femme pourrait bien avoir dit sur Joséphine le mot décisif en écrivant. Peut-être que Napoléon eût valu davantage, s'il eût été plus et surtout mieux aimé. Ainsi s'achève Joséphine et Bonaparte par Paul Deschanel.